Et merci à toute l'équipe de louange. Bonjour à tous. Ce matin, c'est le premier cours, hein, je crois, le premier cours de ceux qui prennent le cours, qui suivent le cours de CSST pour être bénévolat pour la construction. Donc, il y a plusieurs personnes, hommes et femmes, qui sont allés prendre le cours, qui sont allés suivre le cours de la CSST. Juste une petite annonce, vous mettre une petite mise à jour pour la famille syrienne que là, on a soutenu et encouragé ici lorsqu'ils sont arrivés. On est presque arrivé au montant de l'objectif. L'objectif était de 15 000. Nous sommes rendus à 11 000 maintenant. Alors, gloire à Dieu pour ça. Merci pour tous ceux qui ont contribué. Juste vous donner des nouvelles. Les parents vont maintenant à l'école de francisation. Ils sont en train d'apprendre le français. On veut certainement vous encourager à prier pour leur adaptation. Et si vous avez l'occasion aussi peut-être d'offrir du transport, ils veulent visiter un peu la région, évidemment. Ils viennent de la Syrie. Ils n'ont jamais visité ça à Gatineau puis à Ottawa. D'ailleurs, leur cousin, lui aussi, a été accepté comme réfugié à Ottawa depuis février. Ils n'ont pas eu encore l'occasion de les voir. Alors, si vous êtes disponible pour aller donner un coup de main, peut-être offrir du transport. L'autre chose aussi, il y a certains besoins dont on m'a fait part ce matin pour le gîte ami, particulièrement lorsqu'on arrive dans la période d'été, il y a certains besoins. Alors, j'ai reçu une liste. On va vous envoyer ça par courriel. On espère que vous êtes sur la liste des courriels de l'Église, Grandir ensemble. On n'envoie pas vraiment de pub, à moins que ce soit un événement. Et donc, c'est vraiment réservé pour ceux qui aimeraient avoir d'informations. On ne veut pas profiter de ça pour essayer de vendre un paquet de choses. Vous allez juste recevoir de la pub pour les événements et aussi peut-être des occasions de vous informer sur soit des décès, des mariages et peut-être parfois même des besoins. Donc, vous avez juste à aller au kiosque si vous n'êtes pas encore sur la liste et on va certainement vous faire parvenir ces courriels. Eh bien, j'ai fait une rencontre l'autre jour d'un photographe. C'est un photographe professionnel. Et puis, c'était la première fois que je le rencontrais, je ne le connaissais pas. Et on a commencé à jaser, puis je lui racontais, en fait, que mon père avait été photographe en Angleterre. En fait, il y avait même une boutique en Angleterre. Donc, on a commencé à jaser de ça. Il m'a montré sa caméra et il me demandait si moi, j'avais suivi le même métier que mon père. Alors, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je suis pasteur. Alors, il dit, ah! Il dit, où ça? Donc, j'ai dit, c'est une église baptiste sur Grébert, là, à Gatineau. Ah, il dit, je connais ça, je suis allé il y a 2 ans. J'ai dit, ah oui, t'es allé il y a 2 ans, alors à quelle occasion? Mais il dit, c'est un mariage, c'est un couple qui m'a embauché, m'a engagé pour aller prendre des photos de leur mariage. J'ai dit, OK, c'est qui ça? Ben, il dit, c'est Marc et Christine. Le couple s'appelle Marc et Christine. Ben, j'ai dit, tu m'as probablement vu parce que j'étais en avant. C'est moi qui faisais le mariage. Alors là, on a commencé à jaser. Il me racontait il me demandait ce que je faisais avant. J'étais dans le couvre-plancher et tout ça. Puis il était vraiment surpris. Il dit, comment un gars passe de couvre-plancher à pasteur? Il dit, c'est un méchant bon, là. Donc, j'ai pu vraiment lui partager un peu comment je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, tout ça, et comment Dieu avait été intervenu. Et on a pu parler de l'Évangile et comment Jésus-Christ est allé à la croix pour nos péchés, tout ça, donc, on a pu échanger. Puis, à un moment donné, je lui ai relancé la balle. Or, c'est vraiment intéressant parce que je lui parlais d'Évangile, puis je lui expliquais, tu sais, il veut savoir la différence des religions et tout ça. Et j'expliquais comment, pour nous, la différence, c'est bien simple. Je peux te résumer ça simplement. Nous, absolument, les religions font des efforts. Ils vont faire beaucoup de bonnes œuvres pour essayer d'avoir une relation avec Dieu puis avoir une place pour l'éternité au paradis. Nous, c'est le contraire, c'est que c'est Dieu qui nous a aimés en premier, puis il est allé à la croix, il a envoyé son Fils à la croix pour prendre sur lui nos fautes, nos défauts, nos gaffes, nos péchés. Il a pris sur lui afin qu'on puisse avoir son place, notre foi en lui, qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'il m'a regardé, puis il m'a résumé ça comme ça. Ah, il dit comme ça, il dit, vous autres, c'est par rapport aux religions et tout ça, vous autres, c'est comme à l'envers. C'est à l'envers. Les autres, c'est les gens font des efforts pour Dieu, mais vous autres, c'est Dieu qui a fait l'effort pour vous autres. J'ai dit, mon ami, il dit, oui, tu comprends vraiment bien, c'est exactement ça. Fait que, alors, on a commencé à jaser, tout ça, et puis, à un moment donné, je lui ai relancé la balle, puis je lui ai dit, puis toi, où est-ce que tu en es dans ta foi, tu sais? Alors là, il a dit, ben, il dit, moi, je suis né dans une famille mormon. Et puis, mais il dit, je ne crois pas. Ben, j'ai dit, tu crois pas? Il dit, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est la religion? Que tu t'es réfractaire à ça, tu as repoussé la religion, ou c'est Dieu lui-même, tu crois pas Dieu. Ben, il dit les deux. Il dit, honnêtement, les institutions et tout ça, moi, je pousse ça. Mais il dit, en même temps, il dit, je crois pas. Alors, j'ai dit, est-ce que tu te considères comme, donc, un athée, là? Il dit, oui, c'est ça, c'est un athée. Puis, OK, ta femme, il avait parlé de sa femme. Il dit, ta femme, où est-ce qu'elle se trouve dans ça? Elle dit, oui, elle dit, ma femme, c'est pareil comme moi, tous les deux des athées, tout ça. Puis là, moi, bon, on a pu échanger tout ça. J'ai remis un livre, espérons qu'il y aura l'occasion de lire, mais ça nous pousse à une autre question. C'est vraiment, comment tu communiques le message qu'on veut transmettre, ce beau message? Comment tu transmets ça à quelqu'un qui ne croit pas du tout? Vraiment, là, croit pas du tout. Et de plus en plus, ce qu'on voit au Québec, c'est des gens qui ont même jamais entendu parler de Jésus-Christ. Ça se voit de plus en plus des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors, ils connaissent pas Jésus, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas à la Bible et tout ça. Comment convaincre un athée, quelqu'un qui ne croit pas du tout, que Jésus est le seul moyen d'avoir une relation avec Dieu, seul moyen pour le salut? Comment partager le message de la Bible à ceux qui ne croient pas pour les voir venir à Jésus-Christ? Maintenant, c'est une question qui est vraiment importante, parce qu'on veut que les gens découvrent ce beau message de Jésus-Christ. C'est une question qui est bien importante. D'ailleurs, ça a fait couler beaucoup d'encre à travers les années, ça, cette question-là. Comment communiquer la parole de Dieu à des gens qui ne croient pas? D'ailleurs, c'est un sujet tellement important que ça a même été le sujet de certaines divisions dans les églises, imaginez-vous donc. Prenons par exemple une église qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans la période du Nouveau Testament, et qui s'est déchirée, s'est divisée pour différentes raisons. Il y avait plusieurs causes de différentes divisions dans l'église. Mais l'une d'elles, c'était justement, on s'entendait pas sur la manière de communiquer la Bible, la parole de Dieu. D'ailleurs, même on s'entendait pas sur le message aussi, mais particulièrement sur la forme, sur la manière, l'approche de communiquer la Bible. Alors, on se divisait, on se déchirait dans l'Église, imaginez, alors là qu'on devrait voir une place bourrée d'amour non, il y avait ce déchirement, ces critiques, sur l'approche, sur la manière de communiquer ce beau message de la Bible. Imaginez. Donc, on va regarder cette église-là. C'est une église qui était tellement déchirée, d'ailleurs, que c'est arrivé aux oreilles de l'apôtre Paul lui-même. Et Paul a dû intervenir dans cette situation-là. Mais ce qui est magnifique dans cette intervention de l'apôtre Paul, c'est que non seulement il va intervenir pour encourager les gens à arrêter de se chicaner, mais à travers les quatre premiers chapitres de la lettre aux Corinthiens, Paul va en profiter pour donner son approche à comment on communique le message de la Bible. Maintenant, ça, c'est très particulier. On a vraiment tout un privilège à voir un peu le cœur de Paul ici, parce que dans toutes les lettres que Paul a écrites, Paul a écrit plusieurs lettres, dans toutes les lettres que Paul a écrites, c'est le seul endroit parmi toutes les lettres où Paul va révéler son approche à ce qu'on appelle dans notre jargon, son approche à l'évangélisation, son approche à communiquer la Bible. Donc, on va aller voir ça ce matin, parce que c'est majeur et ça fait vraiment toute une grosse différence. Alors, on va tourner dans le 1 Corinthiens, si vous voulez bien, si vous avez votre Bible avec vous, et on va lire un passage. On va commencer juste avec une petite section qu'on va lire ensemble. Mais si vous voulez bien, juste avant, on va se courber et demander à Dieu de bénir notre temps ensemble. Eh bien, Seigneur, on veut te remercier du privilège qu'on a et d'être réunis comme Église ici, avec tes enfants, cette famille de Dieu. C'est tout un privilège d'avoir cette belle famille, les frères et sœurs dans l'Assemblée. Et nous sommes ici pour étudier ta parole, ta sainte parole, et nous voulons nous placer sous l'autorité de ta parole. On veut se soumettre, Seigneur, à ta parole. Alors, on te prie que tu puisses nous aider, que tu puisses incliner nos cœurs vers Jésus. Fais-nous découvrir Jésus. On veut tomber en amour une fois de plus avec Jésus-Christ. On veut découvrir Jésus. Révèle-le à nos cœurs. Et on te prie que tu inclines nos cœurs à le suivre, à vouloir le modeler, à vouloir changer de plus en plus et devenir de plus en plus comme lui, Seigneur. Lui qui était parfait. Et on sait qu'on n'y arrivera pas sans l'aide de ton Esprit Saint. Donc on prie que ton Esprit puisse intervenir dans notre cœur, transformer notre cœur, et nous aider à devenir de plus en plus comme Jésus. Parce qu'on te le demande au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Eh bien, 1 Corinthiens 1, on va commencer, on va juste lire les quelques versets, on n'ira pas trop vite, parce que je veux vraiment vous expliquer un peu ce qui se passe ici dans tout le contexte, et sans ça, on va s'éparpiller. Donc, disons juste les trois versets, 1 Corinthiens 1, verset 10, à 13. Alors, je vous supplie, c'est Paul qui demande aux chrétiens de Corinthe de cesser les chicanes finalement, puis de s'unir ensemble, d'être unis. Alors, il les exhorte, il les encourage. Alors, je vous supplie, dit Paul, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, « Ah, moi, je me rattache à Paul. Moi, à Apollos. Ah, et moi, à Céphas. » Et il y en avait d'autres. Moi, c'est à Jésus-Christ. Tu sais, ça, c'est comme les... Ouf! Moi, c'est Jésus, là. Alors, verset 13. « Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? » Alors, on va arrêter la lecture mais, en ce moment, mais on va lire plusieurs versets dans les prochaines minutes. Mais commençons juste là. Paul exhorte les Corinthiens à s'unir, à cesser les chicanes. Et ça commence en premier à reconnaître qu'on a un problème. Ça prend l'humilité et reconnaître qu'on a un problème. C'est pas normal. Rien n'endommage plus et mine l'esprit d'une assemblée que des divisions. Je sais pas si vous avez déjà connu ça, les divisions d'église, mais c'est déchirant. Puis on peut se diviser pour toutes sortes de raisons. Je vous ai déjà donné l'exemple de cette église qui devait décider la couleur du bardeau pour la toiture. Vous vous souvenez de ça? Je pense que j'ai déjà compté ça. Eh bien, imaginez qu'il y avait des gens dans l'assemblée qui voulaient absolument que le bardeau soit vert. Puis, d'autres personnes dans l'assemblée qui tenaient leur bout puis disaient « Non, moi, je veux que le bardeau soit bleu. » Puis là, on chicanait dans l'église. Il y avait même des chicanes, puis ça passionnait pas mal. Puis là, écoute, « Non, il faut que ça soit bleu. Non, il faut que ça soit vert. » Puis finalement, le conseil de l'église a décidé « Bien, regarde, on va trancher, c'est pas compliqué. On va mettre un côté de la toiture vert, puis l'autre côté bleu. » Puis ça, tout le monde va être content. Vrai? Ben non, imaginez-vous que ceux qui voulaient le bardeau vert ont commencé à s'asseoir sur le côté qui avait les bardeaux verts, puis ceux qui voulaient le bardeau bleu ont commencé à s'asseoir le côté qui avait le bardeau bleu. Mais non, mais misère! C'est trouvé l'erreur. N'importe quoi, ça n'avait pas de bon sens. Il y a des divisions des fois, ils n'ont vraiment pas de bon sens, c'est ridicule. Mais ça existe. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi, des divisions de l'Église. Moi, j'ai déjà connu ça. C'est vraiment déchirant. Mon ami, là, c'est que tu dors plus, puis là, ça fait des camps, puis ça se tire, la couverte d'un bord et de l'autre. C'est tellement décourageant. Puis ça n'honore pas le Seigneur. Le Seigneur l'a dit, hein, si vous aimez les uns les autres, c'est comme ça que les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. C'est comme ça qu'on reconnaît un disciple. Et l'apôtre Paul va intervenir, va dire, écoute, il faut que ça cesse. Vous n'êtes pas en train d'accomplir la mission du tout, là. Au contraire. Donc, Paul intervient et leur demande de cesser leur chicane, puis au contraire, de tenir un bon même langage. En d'autres mots, de s'unir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'unité, ça ne veut pas dire que tu mets de côté des convictions, que tu mets de côté des choses importantes des Écritures. C'est pas ce qu'on est en train de dire. L'unité n'est pas tout laisser faire. L'apôtre Paul lui-même va dire le chapitre plus loin, il dit, écoutez, voulez-vous que j'arrive puis je vienne vous voir comme un papa qui vient corriger ses enfants? On comprend ça. L'unité ne signifie pas qu'on ferme les yeux sur le mal, sur le péché, des erreurs, sur des faux enseignements, des fausses doctrines. Absolument pas. L'apôtre Paul se battait pour la vérité. Il luttait pour défendre la vérité. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, ce chapitre qu'on parle, qu'on lit si souvent, ce passage classique pour le mariage, n'a pas été donné dans un premier temps pour le mariage. Ça a été donné dans un contexte où il y avait des divisions dans l'Église concernant l'exercice des dons de l'Esprit, etc. Et Paul va parler de ce que c'est, va décrire l'amour dans 1 Corinthiens 13, mais il va ajouter dans sa description de l'amour, l'amour se réjouit de la vérité. Donc, en d'autres mots, c'est pas au prix de la vérité. C'est un non négociable. Il y a des doctrines des Écritures non négociables. Et Paul se tient ferme sur sa position des doctrines majeures des Écritures. Il y a des choses, par contre, secondaires, qui sont moins importantes. Et là-dessus, il faut, je vais employer un mot par exprès, au risque de scandaliser quelques-uns, il faut être tolérant. Bien des gens pensent que la tolérance, c'est de cesser ses convictions puis tout laisser faire. C'est absolument pas ça. D'ailleurs, si vous allez voir le dictionnaire, vous allez voir que ce n'est pas ça. Tim Keller donne d'ailleurs une définition. Il dit « La tolérance n'a rien à voir avec le refus d'avoir des convictions. La tolérance, ça a à voir avec la manière dont ces convictions te mènent à traiter ceux qui sont en désaccord avec toi. » En d'autres mots, c'est le respect des autres, mais ça ne veut pas dire que c'est au détriment de tes convictions. Tu gardes tes convictions, mais tu agis avec amour, avec respect, etc. Maintenant, arrêtons-nous sur ce qui divise les Corinthiens, par contre. Et c'est majeur. Verset 11, il est dit, « Il y a des divisions parmi vous, des rivalités. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je préfère Paul. Moi j'aime bien Paul. D'autres dans l'assemblée disent, ben moi je préfère Apollos. C'est bien meilleur avec ça, c'est tout un conférencier. Parce que là, tout ça, ça a rapport à la façon, la manière qu'on communiquait le message de la Bible. D'autres disaient, ah, moi c'est Céphas. Puis évidemment, il y a toujours ceux qui sont au-dessus de la foule, puis disent, moi c'est pas les hommes, c'est Jésus. Vous savez, ceux qu'on appelait des fois les SS, super spirituels. Moi, là, c'est pas les hommes. Moi, c'est Jésus. Maintenant, on veut tous être pour Jésus. La différence, c'est quelle est ton attitude face à ça. Premièrement, tu t'en vanterais pas, n'est-ce pas? Tu regardes quelqu'un qui est vraiment pour Jésus, purement dans son cœur, il y a cette humilité, il y a un cœur de serviteur. Tu ne sentirais pas comme s'il était au-dessus de ses affaires, puis au-dessus de tout le monde, puis moi, c'est Jésus. Moi, je ne regarde pas les hommes. C'est des pécheurs, les hommes. Moi, c'est... Et comprenez-moi bien, là, je ne suis pas en train... On veut tous suivre Jésus. D'ailleurs, c'est le message que Paul va donner. Mais à travers l'humilité, on réalise tous que si on est ici, c'est parce que c'est grâce au sacrifice que Jésus-Christ a fait, accompli sur la croix. Et on est tous des pécheurs. On est tous des tout croches dans le cœur. Alors, Paul sait qu'il y a un malaise, il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ça, dans cette attitude. Un préférait les discours d'Apollos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apollos avait même une formation dans sa jeunesse de art oratoire. C'est un grand conférencier, un grand orateur. C'était toute une science, on appelait ça dans le jargon des discours, la rhétorique. Toute la science, l'art du discours, l'art oratoire. Et c'était un homme très éloquent, Apollos. Il vient d'un endroit, la Bible nous dit d'où il vient, Alexandrie et tout ça, ils avaient des écoles, et depuis la jeunesse, on éduquait les gens dans l'art de communiquer, l'art de faire des discours. Alors, certains disaient, écoute, moi j'aime bien mieux quand c'est Apollos qui parle, lui il est vraiment bon, il fait des bons discours, c'est un homme éloquent. D'autres préféraient Paul, d'autres préféraient Céphas. C'était un concours de popularité. C'était les stars de l'académie de la prédication. C'était « wow, il y en a, et les autres c'est des stars, c'est « wouh ». Moi j'aime ça quand c'est Apollos. Maintenant, on ne parle pas de prédicateur ici du dimanche matin. Là, on est en train de parler dans le contexte de l'évangélisation, de partager le message de la Bible à ceux qui ne croient pas, à ceux de l'extérieur. Ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Et tu connais. On ne parle pas de contexte du dimanche matin ici. Le contexte a rapport à des non-croyants. Maintenant, Apollos était reconnu pour être un grand orateur. D'ailleurs, on le voit à un moment donné rentrer dans une synagogue dans Actes 18. Laissez-moi vous lire ce passage. C'est Luc qui est l'écrivain, qui va décrire Apollos. Et voici ce qu'il dit. Il dit, un juif originaire d'Alexandrie, il y avait des écoles de rhétorique et tout ça, de discours, du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. C'était un homme. Regardez, Luc prend la peine de décrire. Le gars était tellement bon lorsqu'il parlait à des non-croyants que c'était tellement frappant que même Luc, en le décrivant, c'est la première chose qui vient en tête. Il n'a pas dit « il est grand, il est beau, il a l'air de Tom Cruise » et tout ça. Non, la première chose qui vient en tête, il dit « c'est un homme éloquent ». Le gars, là, il parlait, puis ouf! C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de ferveur. Et que ça veut dire, ça, dans l'original, il était bouillant quand il parlait. Un gars vraiment passionné. Il parlait, puis c'était comme, ouf, sentait le zèle, la passion de quand il parlait. Là. Il était bouillant. Alors, c'est lui qui dit ça. C'est un gars bouillant quand il parle. Il évoque, il annonçait, il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Et gloire à Dieu pour ceux qui ont du talent comme ça, c'est super. Le problème, c'est pas là. Comme l'apôtre Paul ne critique pas des gars qui ont du talent, ça, ben non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu commences à mépriser ceux qui ne sont pas aussi bons. Et c'est ça qui arrivait, là. Et non seulement qu'il commençait à mépriser Paul, qui n'était pas aussi bon orateur qu'Apollos, il commençait à mépriser aussi ce qu'il disait, son message. Alors, les Corinthiens avaient leurs préférences. Et ils ont commencé à mépriser l'apôtre Paul et son message. La façon, surtout la méthode. Donc, en fait, ils critiquaient la forme, la manière et le message. Ils critiquaient les deux. Alors, Paul leur dit, écoutez, on est tous des serviteurs, là. On travaille tous dans la même équipe. On porte tous le même chandail, là. On est ensemble. Et c'est qui qu'on veut suivre? C'est pas Céphas, Apollos, c'est Jésus-Christ. On veut suivre Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Église de Corinthe? C'est quoi de bobo? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Mais ça vient de loin. Vous allez voir le contexte historique de la ville de Corinthe. Ça a vraiment eu un impact et ça a influencé les gens dans l'Église. Faut savoir que la ville de Corinthe était très connaissante de l'éloquence. C'était toute une science. C'était aussi populaire que l'équipe de hockey. Imagine-toi, là. Il n'y avait pas de hockey dans ce temps-là, mais en tout cas, imagine-toi là, l'équipe des Canadiens, là, vous savez, toute la joie qu'on a, juste avant une équipe que les Canadiens jouent, juste avant, là. Toi qui joues à 7 heures, la game commence, mettons, à 7 heures, bien, à 6 heures et quart, tu faisais venir un orateur. C'était aussi fort que ça, là. Puis les gens criaient aussi fort quand le gars était bon, là. Donc, la ville de Corinthe, c'était majeur, là. Ils connaissaient l'art oratoire. C'est des grands critiques, d'ailleurs. T'es rendu habitué. Il y a une raison pour ça. Ça fait 500 ans que l'art oratoire, la science du discours s'était développée. Ça avait commencé à Athènes. Et c'est là que la technique de parler en public, de faire des discours a commencé. Mais ça montait en flèche, cette affaire-là. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, on voit vraiment toute une admiration aux grands orateurs. Autant que les athlètes de sport. D'ailleurs, aujourd'hui, tu regardes ça, là, les humoristes, ça, les gens sont prêts à payer cher. T'sais, ils sont millionnaires, ils font de l'argent. Donc, les orateurs étaient très populaires, c'était des vedettes. La deuxième raison, c'est à cause de la politique aussi. Et écoutez bien ce petit détail, parce que ça va venir avoir un impact tantôt dans le message que Paul va nous donner. C'est la popularité des politiciens. Alors, ce qu'on faisait, c'est, mettons que tu voulais qu'une foule se prenne une décision. Tu voulais influencer une foule d'aller, par exemple, en guerre. Alors, c'était quelque chose, c'était une grosse décision. Alors, comment persuader, je me sers de ce mot-là, comment persuader la foule de croire au message, alors d'avoir de la foi au message de l'orateur qu'il va donner, qu'il faut aller en guerre, et faire bouger la foule à suivre le politicien et aller en guerre. Alors, Ça reposait l'effort, la puissance, et le mot original c'est dynamis, sur lequel on a le mot dynamite plus tard qui va venir, la puissance du conférencier à persuader, à créer, à générer de la foi à ceux qui l'écoutent, d'accord? Pour les faire bouger, les persuader de quelque chose pour les faire bouger dans une direction. Alors, c'est la raison que les grands orateurs sont devenus très populaires des centaines d'années et avec les années à cause de la politique. Une autre raison aussi, la philosophie s'est rendue très populaire. Il y a une autre raison aussi, c'est dans ce temps-là, les centaines d'années avant Jésus-Christ, tu n'avais pas d'avocat. Donc, si tu étais accusé d'avoir posé un geste criminel, c'est toi qui te défendais. C'est toi qui devais, par ton discours, par ce que tu communiquais, c'était à toi de persuader le jury, qui n'était pas composé de 12 personnes, les amis, mais 400 personnes. C'était des foules qui venaient en grand nombre, et selon que tu réussissais à les convaincre, à les persuader que tu étais non coupable ou pas, c'était vraiment, ça reposait sur la qualité de persuasion que tu avais. Ta puissance de persuasion, de faire, de créer, de générer chez les gens qui t'écoutaient, de te croire. La foi, en d'autres mots. D'accord? Et ça, ça a monté. Si bien que quand on arrive à la période du Nouveau Testament, là, on parle des centaines d'années après, cet art-là du discours s'est vraiment développé. Puis là, c'est rendu des experts. Ils ont de l'expertise. À Corinthe, on était habitué de vationner, applaudir les bons orateurs, comme les critiquer, les huer. Si tu étais très bon, on t'applaudissait, on criait. C'était même au point, c'était tellement des rock stars, les orateurs, qu'on faisait même des statues, on érigeait des statues qui te représentaient pour inspirer les jeunes à aller au cours, à l'école, puis prendre des cours d'art oratoire pour que tu sois aussi bon que lui. Donc, c'était majeur. Puis, on était habitué de juger de la qualité du discours. C'est la foule qui décidait, en fin de compte, si c'était bon ou si c'était pas bon. Et l'approche était la suivante. L'orateur regardait l'assemblée. Il y avait un but à la fin. L'objectif, c'était des résultats. Je veux faire bouger. Mettons qu'il avait reçu un mandat de faire bouger la foule, à prendre une direction politique. Alors, t'as un but. L'orateur ajustait ce qu'il disait, son discours, de manière à évoquer des émotions, à développer de bons arguments logiques pour essayer de t'emmener à la fin à bouger puis à croire à ce que tu avais dit. Tout l'effort, donc, du résultat, le résultat dépendait entièrement de la puissance, de la capacité de l'orateur. D'accord? Ça, c'est très important, c'est majeur, là. Parce que c'est là que ça se joue, là. C'est là que ça va faire toute la différence tantôt, là. OK? Tout l'effort repose sur les épaules de l'orateur à convaincre, à persuader celui qui écoute. Alors ça, c'est majeur. C'est ça, la racine du problème. Voici ce que disaient les professeurs en discours, ceux qui enseignaient ça, la rhétorique, l'art du discours. Il dit, le but d'un discours, c'est de produire une conviction dans l'âme, de persuader l'âme. Et là, c'est la persuasion. D'accord? On disait, la rhétorique est l'art de diriger l'âme par le moyen de paroles. On croyait que le but de tout effort de l'orateur, c'était de produire une conviction dans ceux qui écoutaient, de persuader le cœur de l'autre. D'accord? Si bien qu'on résume le tout en disant, le discours est le créateur de persuasion. Maintenant, à l'époque du Nouveau Testament, on croyait qu'on ne pouvait pas appeler une personne orateur à moins que celui-ci parlait de manière à convaincre puis à persuader. D'accord? Imaginez le fardeau sur les épaules. On parlait donc de la puissance de la persuasion. Alors, ce qu'il faut savoir, en d'autres mots, un petit schéma ici, ça c'était la grande équation de l'art du discours qui s'appelle la rhétorique. C'est pas compliqué, tu as l'auditoire, tu ne peux pas la changer, elle est là, et tu vois l'objectif, le résultat, et tu vas t'ajuster, tu vas ajuster ton discours de manière à le bâtir pour que tu atteignes le résultat au bout, qui était de créer la persuasion dans le cœur des gens, que les gens croient ton message, qu'ils aient la foi. Alors, ça reposait sur toi de générer la foi dans le cœur des gens. D'accord? Donc, un orateur, lorsqu'il se présentait, si la foule aimait le discours, tu étais une vedette, une rock star, on t'applaudissait, c'était la grosse affaire. On te payait très cher pour ça. Mais si tu n'aimais pas, il te huait et te critiquait. Et les Corinthiens étaient habitués, les habitants, les citoyens de Corinth étaient habitués de juger les orateurs parce que, vous comprenez, ça fait 400 ans qu'on développe cet art de discours. Donc, rendu aux Corinthiens, déjà, lorsque tu étais haut comme trois pommes, tu prenais des cours en oratoire. Tu étudiais comment parler, faire des discours. L'éloquence, c'était très important, c'était majeur. Et on te formait à critiquer et à juger parce que le dernier juge, dans le fond, le vrai juge, c'est la foule. C'est elle qui décide si elle aime ou si elle n'aime pas, si elle va croire ou pas au message que tu vas livrer, que ce soit politique ou autre. D'accord? Alors, les Corinthiens avaient l'habitude de juger l'éloquence et les discours des orateurs. Et là, tranquillement, ils commencent à faire la même chose avec l'apôtre Paul. Ils étaient habitués comme ça. C'est ce qu'on faisait dans le monde. Ils commencent à juger la performance et le message de Paul. D'ailleurs, c'est une des critiques qui va revenir très fort. Les membres, d'ailleurs, l'apôtre Paul va parler plus de 10 fois dans ses deux lettres, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, sur les accusations qui sont faites que c'est pas un bon orateur, il est pas bon comme prédicateur. Donc, les membres de l'Église de Corinthe ont commencé à voir Paul comme un mauvais prédicateur. Pour les Corinthiens, un homme éloquent, quelqu'un qui est éloquent, un bon orateur, c'est celui qui prend la langue, qui manie, qui s'ajuste, qui va servir de toutes sortes de moyens, des émotions, la logique et tout ça pour essayer de te convaincre. La puissance de persuader repose sur les épaules de l'orateur. Alors, Paul prend les 4 premiers chapitres d'un Corinthien, en fait, pour donner sa conviction sur la façon de créer de la foi chez ceux qui écoutent le message. Il va parler de la puissance, le dunamis qu'on a parlé tantôt, qui va persuader, qui va régénérer de la foi chez celui qui nous écoute. D'accord? Il prend les 4 premiers chapitres pour ça. Et Paul répond aux critiques en expliquant que, dans le fond, les disciples, notre rôle, c'est pas d'être des hommes, des femmes très éloquents. C'est pas ça le rôle. La puissance ne repose pas sur tes épaules pour générer, créer de la foi dans celui qui m'écoute. Absolument pas. Et Paul, lui, voit la manière de transmettre le message, c'est bien simple. C'est plutôt comme un héros. Alors, c'est quoi un héros? Un héros, non pas héros, R-O-S, comme une vedette, un champion. Un héros, R-A-U-T, c'était le gars qui recevait le mandat du roi de s'en aller dans les villes, faire les villes et villages, et simplement rapporter, alors d'ailleurs j'ai quelques petites images ici, oui, c'est ça qu'il va dire l'apôtre Paul, il va dire « Christ m'a envoyé », au verset 17, il dit « Christ m'a envoyé ». C'est pas pour baptiser, mais il m'a envoyé pour annoncer l'Évangile. Le mot « annoncer » ici, c'est le mot qu'on servait justement pour ce héros qui faisait juste raconter fidèlement ce que le roi avait décidé. Le gars ne devait pas improviser, il ne devait pas essayer de concevoir quelque chose de très éloquent, absolument pas, c'est « sois fidèle à ce que j'ai transmis ». Tu es un héros. Et Paul nous invite, nous demande de devenir tous et chacun des héros à communiquer, à ouvrir la bouche tout simplement et parler du message de Jésus-Christ. En d'autres mots, il enlève le fardeau qui était sur les épaules des grands orateurs, où la puissance résidait dans l'effort de l'orateur pour persuader ceux qui écoutaient. Et Paul est en train de dire, non, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est un héros, c'est d'annoncer le message. D'accord? Il va montrer tantôt où elle est, la puissance. Elle n'est pas là du tout. Elle n'est pas sur nous autres du tout. C'est le Seigneur qui s'en occupe. Et ça fait une méchante différence. Alors, il dit, moi, le Seigneur m'a appelé pourquoi? pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Le chapitre suivant, chapitre 2, dit ceci. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. » Voyez-vous, voyez maintenant qu'on connaît le contexte en arrière, historique en arrière, on voit ce qui se passe, on voit à quoi il fait référence, l'apôtre Paul. Il dit, ma parole et ma prédication, et quand on parle de la prédication, on parle de l'évangélisation, on parle de communiquer à des non-croyants ici. On ne parlait pas du dimanche. Paul n'avait rien contre la rhétorique. D'ailleurs, même lui-même va évoquer, va se servir de certains thèmes et tout ça pour essayer, il va s'assurer de bien clarifier les choses et tout ça à l'intérieur de l'Église. Mais il dit, lorsque je parle à des non-croyants, je veux que vous sachiez, la puissance n'est pas là, ne réside pas sur les épaules du conférencier. Il dit, ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Le même mot ici qu'on employait pour l'orateur dunamis, d'accord? Alors, Paul se voit comme un héros. Il se voit comme un annonceur, un annonciateur, celui qui annonce ce que le roi a décidé. Il allait de ville en village et annonçait le message qu'il avait reçu, d'accord, le plus fidèlement possible. Alors, cette image, j'ai pris à quelque part, je ne sais pas si ça vient d'un film, mais j'ai cru peut-être voir un micro, je ne suis pas sûr, peut-être que ça c'est sûrement pas dans le temps. OK, ça, on va passer tout droit pour ça. D'accord, un héros, un annonciateur. Il annonçait le message du roi, il n'improvisait pas, il était fidèle mot à mot au message du roi, puis il devait le transmettre fidèlement. Alors, il dit, c'est ça qu'on est. Vous et moi, c'est ça qu'on est. On est des héros. On communique simplement le message de l'Évangile, le message de la croix, puis Dieu va faire le travail. La puissance n'est pas sur nos épaules, elle est sur les épaules de Jésus-Christ, sur Dieu. C'est lui-même qui va faire le travail dans le cœur des gens qui nous écoutent. Alors, Paul explique pourquoi. Et il va dire, c'est le plan de Dieu de créer la foi dans l'âme, pour emprunter la même expression qu'on employait là pour la rhétorique. On voulait créer la foi dans le cœur des gens qui nous écoutaient. Paul est en train de dire, non, c'est le plan de Dieu que lui-même crée la foi dans le cœur. Il va donner différentes raisons. Et il dit, c'est le plan de Dieu de convaincre, de persuader les gens à travers le message de la croix. Première raison. Donne une série de raisons. Premièrement, se servir des stratégies humaines vide la croix de sa force. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Verset 17, il dit, « Christ m'a envoyé, et c'est pour annoncer l'Évangile, et c'est sans courir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. » En autre mot, si j'influence mon voisin simplement des choses agréables à entendre, par des choses émotives, et il est touché et tout ça, et c'est juste, j'enlève le message de la croix, c'est pas enraciné dans le message de la croix, je veux pas parler de la croix parce que dans le fond, aujourd'hui, en 2016, c'est la croix de Jésus-Christ, tout ça, c'est pas moderne, on est moderne aujourd'hui, technologique, tout ça, on parlait pas de ça, je vais l'emmener à l'église, Paul est en train de dire, ça ne sera pas fort à faire. Ça ne fait pas des chrétiens forts. La personne, lorsqu'il va avoir une épreuve, tout de suite, la personne va quitter. Elle n'a pas saisi l'ampleur de ce qui est arrivé à la croix pour l'appliquer dans sa vie. Vois-tu? Tu dérobes la croix de sa force. Il n'y aurait pas cette puissance-là dans son cœur, la puissance de la régénération d'un cœur nouveau. Alors ça, c'est la première raison. Pourquoi Dieu a choisi dans son plan de générer la foi dans le cœur des gens à travers le message de la croix. Deuxième raison, c'est le message de la croix qui régénère la foi. Dieu a choisi ça comme ça. Écoutez bien ceci. Verset 18, il dit en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui rejettent l'Évangile. Tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un, le gars dit, moi je veux rien savoir de ça, ça ne m'intéresse pas pantoute, puis il repousse. Il dit, oui, effectivement. Il dit, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes nés nouveaux, qui avaient reçu la grâce de recevoir, c'est pas qu'on était meilleurs qu'eux autres, absolument pas. C'est que l'Esprit a décidé de toucher nos cœurs dans sa bonté, puis a régénéré de la foi en nous autres, mais c'est la puissance de Dieu qui fait ça. C'est le message de l'Évangile qui va générer la foi et ce n'est pas l'habileté de l'orateur à créer de la foi dans le cœur de celui qui l'entend. Donc, l'effort n'est pas sur l'orateur. L'effort est sur Dieu lui-même. Tu sais, dans le fond, tu donnes l'image de Jésus donne l'image que quand tu répands la semence de la parole de Dieu. Maintenant, il y a plusieurs façons, hein? C'est pas bien compliqué de lancer de la semence dans la terre pour que ça produise du fruit et que ça pousse. Tu sais, tu peux lancer ça de même. Tu peux lancer ça de même. Tu peux lancer la semence n'importe où, finalement, puis etc. Puis ça tombe dans la bonne terre, là. Ça va pousser, puis ça va avoir des fruits. Il n'y a pas de technique spéciale pour placer la semence. C'est vraiment pas compliqué, là. Tu n'as pas besoin d'un bac pour ça, là. Alors, ce que Paul est en train de dire, Dieu a choisi souverainement de générer la foi, la croyance dans le cœur des gens à travers le message de la croix. C'est ça qu'il va générer. C'est le message de la croix par la puissance du Saint-Esprit qui va générer la foi. Même chose au verset 21, un peu plus loin, qui dit ceci. Ça dit, « Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. » Hein? La folie de la prédication. T'es-tu déjà fait traiter de fou parce que tu parlais de Jésus? C'est arrivé, hein? Moi, dans le temps, quand j'étais sur la route et tout ça, j'étais représentant, puis tout, j'ai des clients, ils m'ont dit, « T'es malade, toi? T'es malade? » Ben, moi aussi, j'ai déjà dit ça. Oui, j'ai déjà dit ça. Je suis allé dans une église une fois, puis moi, je n'étais pas croyant du tout. Puis j'ai connu une fille, elle m'a emmené là, puis j'écoutais ça, puis ils m'ont fait chanter des cantiques. Je n'avais jamais chanté de ma vie. Jamais chanté. Je n'aimais pas ça chanter. Je chantais mal. Puis, fais-moi pas chanter. On me donne un livre de cantiques, puis je dis, gars, tu chantes. Ça a mal commencé. Puis, je regarde ça, puis je dis, ça n'a pas de bon sens, une gang. Là. Mon ami, ça commence, ça chante des cantiques. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je trouvais ça malade. Je disais, ça n'a pas d'allure. Je trouvais ça tellement malade, parce que c'était ma copine. J'en ai honte aujourd'hui. Je trouvais ça tellement malade que je l'ai laissée. J'ai cessé de sortir avec elle parce qu'elle était chrétienne. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, cette gang-là. Le Seigneur est allé me chercher plus tard, autrement. C'est un miracle, ça, là. C'était pas leur pouvoir de persuasion par des belles paroles. Non, j'ai dit, écoute, c'était la folie de la prédication. C'est un miracle, cette affaire-là. C'est incroyable. Chaque personne qui vient à Jésus-Christ, là, c'est un miracle, c'est une intervention de Dieu. Ce qui génère la foi dans le cœur, ce qui va persuader une personne, c'est pas la puissance de la persuasion, c'est la puissance de l'Évangile. Ça enlève un gros fardeau pour vous autres, hein, sur vous autres et sur moi, là. Mon ami, annonce le message de la croix est la manière que les gens vont venir à Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu. Dieu travaille comme ça. Dieu a choisi de changer des vies, de bouleverser des vies du tout au tout par la folie de la prédication de la croix. Essayer par nos propres forces, les amis, ça ne marche pas fort fort. Paul ajoute une autre raison. Il dit, le péché a affecté le raisonnement des êtres humains. Alors, ils sont incapables de voir la sagesse de la croix. C'est sûr, quand le péché est rentré dans le monde, notre raisonnement, on peut être intelligent, on peut avoir des doctorats, des PhD et tout ça, mais notre raisonnement par rapport à Dieu a été affecté, brisé, brimé par le péché qui est rentré dans le monde. Si bien que maintenant, le message de la croix, qui devrait être quelque chose de sublime, nous impressionner, devrait être un chef-d'œuvre de toute de l'histoire de l'humanité, on la voit comme de la folie. Voir le message de la croix comme de la folie montre à quel point notre cœur est rendu tortueux. Ce plus grand geste d'amour du ciel où Dieu choisit l'enfant chéri du ciel, Jésus-Christ, son propre fils unique, pour l'envoyer ici, être humilié, méprisé, il va jusqu'à la croix et s'offre en sacrifice pour mourir et prendre sur lui nos péchés. Mes chers amis, afin qu'on soit sauvés, qu'on ait une relation avec Dieu, ça c'est un chef-d'œuvre. L'homme naturel, la personne qui n'a pas une intervention de Dieu, va trouver ça de la folie. Illogique. Mais c'est pas que c'est illogique. C'est parce que sa raison a été affectée sur Dieu par le péché. Le péché a affecté le raisonnement des êtres humains. Alors, ils sont incapables de voir le chef-d'œuvre de la croix. Et c'est ce que Paul dit au verset 20. Il dit, où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle, ces grands conférenciers? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, imaginez, prenez les plus grands PhD du monde, ils n'ont pas été capables de découvrir Dieu avec leur intellect, leur intelligence. C'est ça que Paul est en train de dire. Il dit, puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas été en mesure de connaître Dieu, en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs de leur bord veulent ce qui frappe les regards, un miracle, et les Grecs aussi veulent ce qui frappe les regards, c'est l'éloquence. Des grands discours, les deux cherchent à ce qui frappe les regards. Dieu, lui, a fait le contraire. Il a dit, tiens, je vais prendre la folie de la prédication. L'humanité n'est pas capable de voir la beauté de la croix. Le péché a affecté la raison. La sagesse, la vraie sagesse, celle qui vient de Dieu, est insaisissable pour nous, pécheurs. Ça prend une intervention de Dieu. Chapitre 2, verset 14, renchérit et dit ceci. Mais l'homme naturel, laissez à lui-même, là, l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Ça vient de Dieu, ça. Alors, vous savez comment vous présentez l'Évangile et certaines personnes disent, écoute, je vois pas. On était là, on avait un voile sur notre cœur et ça prend une intervention de Dieu pour ça. Ça prend une dose d'humilité que Dieu va régénérer dans le cœur parce qu'on est affecté par le péché. Paul nous donne une dernière raison qu'il est impossible de croire en Jésus sans annoncer le message de la croix. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi afin que personne ne se glorifie. Verset 27 dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Et verset 29, afin que personne ne puisse faire de fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus. Lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Paul nous livre donc le moyen que les gens viendront à Jésus, même les athées, même les gens qui ne croient pas du tout, même les personnes les plus hésitantes et les plus même fâchées. C'est juste annonçant le message de la croix. On a un bel exemple avec Lydie dans Actes qui dit ceci, le jour du sabbat. Nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Et voici ce que nous dit Luc. L'une d'elles s'appelait Lydie. Elle nous écoutait. Et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et après avoir été baptisée, elle et sa famille, elle nous a invités chez elle. Imaginez, tout de suite, elle s'est convertie, puis sa famille aussi. Dieu a ouvert son cœur. Alors, mes chers amis, c'est vraiment pas compliqué, hein? Agissons en héros, puis Dieu va agir. Moi, je me rappelle lorsque un de mes clients m'a parlé de Jésus. J'avais quitté une fille, tout ça, parce qu'elle était chrétienne, je ne voulais rien savoir. Et puis là, lorsque j'étais sur la route, un de mes clients venait juste d'accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. Ce n'était pas un grand orateur, il me dit Normand, il dit, moi, je viens juste d'accepter Jésus dans ma vie. Ça a fait une grosse différence et tout ça. Il dit, j'aimerais ça de partager ça. Mais il m'a avoué plus tard, et on s'est convertis, moi, Élise, les deux. Mais il m'a avoué plus tard, j'avais vraiment peur. J'avais peur de parler de Jésus. J'avais peur que tu me frappes, mon ami. J'avais peur que tu me frappes, que tu me battes. Je mesurais 6 pieds. Lui, il n'était pas tellement grand. Il dit, je te le dis, j'avais peur. Et l'apôtre Paul aussi, il dit, j'avais peur quand je suis allé vous voir. Je tremblais. Mais tu sais quoi? on est devenus des enfants de Dieu. J'ai été le premier surpris, normalement. Il dit, t'avais tellement pas le genre à croire. Le Seigneur l'a surpris. Alors, ouvre la bouche. Je sais, on est gêné parfois de parler de Jésus. Mais vas-y, agis en héros. Fais juste annoncer. Vas-y simplement. Et tu vois, Dieu va agir. Regarde ce qui se passe maintenant dans tout le monde musulman, à travers le monde. Des milliers de musulmans, écoutez, au prix de leur vie, en ce moment même, tu peux avoir la peine capitale si tu te convertis à Jésus dans certains pays musulmans. C'est l'histoire d'un gars qui a fait une grosse recherche parmi tout le réveil spirituel qui a lieu en ce moment dans les pays musulmans. Et il raconte certains témoignages, dont une jeune fille, Nadia, en Iran, à 10 ans, son père a signé son contrat de mariage. À 10 ans, elle avait 10 ans. Et deux ans plus tard, à l'âge de 12 ans, elle a dû déménager chez son mari, qui avait 20 ans. Et puis, ça a été vraiment une famille qui a vécu toutes sortes de drames à cause de la drogue. Et ça, c'est en Iran. Son mari est devenu accro à l'opium. Et apparemment, c'est pas rare en Iran. L'Iran compte le taux le plus élevé de dépendance de drogue dans le monde entier. Les deux frères de Nadia ont succombé à la drogue. D'ailleurs, l'un d'eux a tué quelqu'un à cause de la drogue, d'une chicane de drogue. Il s'est retrouvé en prison. L'autre s'est suicidé. Vraiment des drames par-dessus drames. Quelques années plus tard, elle a vieilli. Elle a eu des enfants. D'ailleurs, trois enfants. Puis un jour, son cousin lui remet une Bible en langue persane. Elle a commencé à lire la Bible chez elle. Et à mesure qu'elle lisait, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Elle a découvert Jésus et là, elle le dit elle-même, c'est comme si mon cœur, elle qui était musulmane, disait, c'est comme si mon cœur était en train tranquillement de s'ouvrir à Jésus. Et tranquillement, en lisant la parole, elle a découvert Jésus-Christ et la beauté de tout ce qu'il avait fait sur la croix. Et elle s'est convertie à Jésus. Elle, son mari, toute sa famille, alors que c'est illégal de se convertir, alors que tu peux succomber, tu peux avoir une peine capitale de te convertir à Jésus. Pourquoi des gens vont aller jusque-là au prix de leur vie pour se tourner vers Jésus? À moins que Dieu agisse miraculeusement dans les cœurs lorsqu'ils entendent parler le message de l'Évangile. C'est fou, mais en même temps, c'est glorieux. Amen. Alors, agissons en héros, annonçons l'Évangile, puis Dieu va agir. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ceux et celles qui nous ont parlé, de Jésus. Où serions-nous aujourd'hui? Merci Seigneur de la puissance de l'Évangile, de ce message de la croix. Et nous te prions Seigneur que tu puisses agir, que tu puisses persuader tout l'Outaouais, les convaincre, que tu puisses générer de la foi dans les cœurs des gens de toute la région, qu'ils puissent découvrir la beauté, le chef-d'œuvre de la croix, Seigneur, comme tu nous l'as révélé un jour par ta grâce. On est tellement reconnaissant envers toi. On te doit tout. On veut t'adorer, Seigneur, et te louer. Quel privilège on a. Et Seigneur, on te prie, tu nous accordes par ton esprit le courage d'ouvrir la bouche. Comme dit Paul en Romains, comment entendront-ils si personne ne parle, si personne ne prêche? Aide-nous, Seigneur, à accomplir cette belle mission de répandre le message de la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.